Vous savez, si vous avez déjà été à l'école, vous vous êtes déjà posé la question, à quoi ça sert d'apprendre ça? Particulièrement pour, j'entendais surtout ça dans mes cours de sciences ou de mathématiques, il me semble, au primaire, au secondaire, on apprenait les formules pour la trigonométrie, on apprenait à faire de l'algèbre, on apprenait à connaître la formule pour connaître les zéros d'une fonction quadratique. Puis, il y avait toujours des gens qui se disaient « Mais ça sert à rien! Pourquoi est-ce que j'apprends ça? J'ai pas l'intention d'étudier dans ce domaine-là. Pourquoi est-ce que je dois me casser le cerveau à essayer de mémoriser ça, à apprendre ça? » Ou peut-être que c'est l'histoire ou la géographie ou une autre langue, mais que souvent on se demande « À quoi ça sert? Pourquoi est-ce que j'apprends ça? » Alors, certains d'entre nous, on aime ça apprendre, peu importe que ça soit utile ou pas. Alors, ça fait plaisir, mais certains d'entre nous, on est plus pragmatiques. On veut savoir pourquoi est-ce que j'apprends ça. Et si je n'ai pas de bonne raison pour l'apprendre, alors je trouve que ce n'est pas pertinent. Je n'ai pas le goût de me forcer pour ça. Eh bien, les bons profs sont ceux qui nous aidaient à faire le lien entre la vie et la matière qu'ils enseignaient. Peut-être que vous avez eu cette expérience-là, avoir une matière que vous trouviez particulièrement difficile, puis une année, vous avez un professeur qui connectait vraiment la matière avec votre vie tous les jours. On apprenait, cette équation mathématique, elle explique telle chose qu'on vit dans la vie tous les jours. Même si je n'ai pas besoin de mémoriser la fonction pour que ça soit utile dans ma vie, mais je comprends mieux le monde qui m'entoure et je vois comment ça s'applique dans ma vie de tous les jours. La raison pour laquelle je parle de ça, c'est parce qu'on est en train d'étudier le livre des Actes des Apôtres ensemble en Église dans une série qu'on appelle « En mission avec Jésus ». Et on voit surtout l'apôtre Paul qui est en mission, qui fait des voyages missionnaires, qui traverse le monde gréco-romain connu à l'époque pour apporter le message de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et si vous avez remarqué à date, d'une fois à l'autre, quand Paul enseigne, quand il discute, il ne dit pas toujours la même chose. En fait, et on va le voir particulièrement ce matin, Paul adapte son discours en fonction de ses interlocuteurs. Non pas que Paul modifie la parole de Dieu, mais qu'il démontre en quoi elle est particulièrement pertinente pour chaque société, pour chaque culture. Et ce matin, on va voir comment, autant avec les Juifs, qu'avec des philosophes grecs, Paul apporte un message en démontrant la pertinence de Jésus pour la vie de ses interlocuteurs, de ses auditeurs. Et on va chercher à apprendre de ça, comment est-ce que nous aussi, en quoi est-ce que ce message vieux de 2000 ans est encore pertinent pour nous aujourd'hui et pertinent pour tous les gens qui nous entourent, peu importe leur culture, peu importe leur philosophie, leur façon de vivre. Alors, la semaine passée, on a vu comment l'apôtre Paul est parti dans son deuxième voyage missionnaire. Est-ce qu'on peut mettre la prochaine diapo? Alors, Paul était parti de Jérusalem, où il y avait eu le concile de Jérusalem. Il est retourné à Antioche avec la lettre. Et ensuite, ils ont recommencé à visiter les églises du premier voyage. Le Seigneur les a empêchés de venir vers Éphèse, a empêché d'aller vers le nord. On ne sait pas trop comment, mais ils se sont rendus à Troas. C'est de là, Paul a eu une vision. Où il y avait quelqu'un de la Macédoine qui l'appelait et qui dit « Viens nous sauver ». Alors, Paul et ses compagnons en ont conclu, « Le Seigneur nous appelle à aller en Macédoine, à traverser en Grèce ». Alors, ils ont pris un bateau. Deux jours plus tard, ils sont arrivés à la ville de Philippe. C'est le message de la semaine passée. On a vu dans Acte 16, quatre délivrances qui ont eu lieu à Philippe. Cependant, il y a eu... Ça n'a pas été de tout repos. Paul et Silas se sont fait, ont été les victimes d'une émeute. Ils se sont fait battre, ils se sont fait emprisonner. Et pourtant, le Seigneur s'est servi de ça pour amener la famille du geôlier de la prison à lui. Mais là, ils ont continué leur chemin. Et on voit aujourd'hui les trois prochaines villes où Paul s'est rendu. Je vais passer rapidement à travers les deux premières. Je veux surtout qu'on se rende à Athènes pour voir le sage modèle de discussion de Paul à Athènes. Mais néanmoins, un peu comme dans notre introduction, on va passer au travers des deux premières villes où Paul va aller. Je vous montre tout de suite sur la carte. Donc, ils partent de Philippe. Ils vont passer rapidement par Amphipolis, Apollonie. Et le passage nous parle de Thessalonique, et ensuite de la ville de Béré, où, après quoi, il va prendre un bateau pour se rendre jusqu'à la ville d'Athènes. Donc, allons-y. On va lire, je vais lire acte 16, acte 17, pardon, les versets 1 à 14. Mais juste avant, permettez-moi de prier. Seigneur notre Dieu, merci pour la joie de pouvoir ouvrir ta parole. Merci d'avoir jugé dans ta providence, Seigneur, utile pour nous, d'avoir le détail de ces voyages de Paul, Seigneur. Merci pour l'encouragement qu'ils sont pour nous. Et on prie, Seigneur, que tu nous aides à saisir de façon encore renouvelée aujourd'hui ou de façon plus claire comment cet appel à être en mission avec Jésus pour Paul demeure le même pour nous aujourd'hui. Alors, ouvre nos yeux, Seigneur, ouvre nos cœurs pour comprendre ta parole et pour l'appliquer dans nos vies. Nous te prions ces choses dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Je lis dans le livre des Actes des Apôtres, le cinquième livre du Nouveau Testament, les versets 1 à 14. Acte 17. Paul et Silas passèrent par Amphipolis et Apollonie et arrivèrent à Thessalonique, où les Juifs avaient une synagogue. Paul y entra, conformément à son habitude. Pendant trois sabbats, il discuta avec eux à partir des Écritures, en expliquant et en démontrant que le Messie devait souffrir et ressusciter. « Ce Jésus que je vous annonce, disait-il, c'est lui qui est le Messie. » Quelques-uns d'entre eux furent convaincus et se joignirent à Paul et à Silas, ainsi qu'un grand nombre de non-juifs qui craignaient Dieu et beaucoup de femmes importantes. Cependant, les Juifs restés incrédules prirent avec eux quelques vauriens qui traînaient sur les places, provoquèrent des attroupements et semèrent ainsi le trouble dans la ville. Puis ils se rendirent à la maison de Jason et cherchèrent Paul et Silas pour les amener vers le peuple. Ne les ayant pas trouvés, ils traînèrent Jason et quelques frères devant les magistrats de la ville en criant « Ces gens qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici et Jason les a accueillis. Ils agissent tous contre les édits de l'empereur en prétendant qu'il y a un autre roi, Jésus. » Par ces paroles, ils troublèrent la foule et les magistrats qui ne relâchèrent Jason et les autres qu'après avoir obtenu d'eux une caution. Aussitôt, les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Béré. Dès leur arrivée, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Ces derniers avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils accueillirent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Beaucoup d'entre eux crurent donc, ainsi que parmi les non-juifs, un grand nombre de femmes en vue et d'hommes. Mais quand les Juifs de Thessalonique apprirent que Paul annonçait la parole de Dieu aussi à Béré, ils y vinrent pour ajouter et troubler la foule. Alors les frères firent aussitôt partir Paul du côté de la mer, tandis que Silas et Timothée restaient à Béré. Alors, on a une brève description du ministère de Paul, Silas et Timothée dans ces deux villes, à Thessalonique et à Béré. À Thessalonique, il se passe à peu près la même chose que dans toutes les autres villes qu'on a vues à date. Paul et Silas se rendent à la synagogue et ils annoncent l'Évangile aux Juifs. Et la façon par laquelle Paul fait ça, au verset 2, il discute à partir des Écritures en expliquant et démontrant que le Messie devait souffrir et ressusciter. Et ensuite, il leur disait, ce Jésus que je vous annonce, c'est lui qui est le Messie. Le Messie que les Juifs et que les non-Juifs, mais qui craignaient Dieu, le Dieu d'Israël, ce Messie qu'ils attendaient, Paul leur démontrait à partir des textes de l'Ancien Testament comment, en fin de compte, Jésus était l'accomplissement de ses prophéties, était l'accomplissement des systèmes sacrificiels de l'Ancien Testament et ainsi de suite. Donc, Paul, avec des Juifs, avec des gens qui connaissaient bien l'Ancien Testament, se sert de l'Ancien Testament pour leur montrer comment Jésus est l'accomplissement de leurs attentes les plus chères. Et j'ai vu une vidéo cette semaine, c'était un jeune homme israélien, je crois qu'il était à Jérusalem, mais lui-même est un juif, mais qu'il est chrétien. Et il interviewait d'autres gens dans la rue Et les vidéos étaient sous-titrées, ils parlaient en hébreu, donc je ne comprenais pas c'est quoi qu'ils disaient. Mais il leur parlait d'un chapitre qui était inconnu et qui est inconnu aujourd'hui des Juifs, qui n'est plus lu dans les synagogues depuis des siècles. Ce chapitre, c'est Ésaïe 53. Et il leur dit, vous savez, ça fait des siècles qu'on ne lit plus ce chapitre-là dans les synagogues, pourtant il parle du Messie. Dans les siècles, pendant plusieurs siècles, tous les rabbins, les enseignants juifs étaient convaincus que ce texte-là parlait du Messie. Et il fait lire le texte aux gens, il les aide à formuler qu'est-ce qu'il dit ce texte-là, puis les gens discutent, OK, donc le Messie, c'est quelqu'un qui est rejeté par les hommes, c'est quelqu'un qui il porte les péchés des gens sur lui, les maladies sur lui. Et c'est par sa souffrance que les gens vont être guéris. C'est par sa mort, ultimement, que les péchés du peuple sont pardonnés. Et là, le jeune homme, ensuite, il leur demande, est-ce que vous connaissez? Et là, il leur montre à partir de Daniel, je crois, que ces choses-là devaient être accomplies avant la destruction du temple. La destruction du temple a eu lieu à 70 après Jésus-Christ. Alors, il dit, est-ce que vous connaissez quelqu'un qui accomplissait toutes ces choses-là, qui allait naître à Bethléem, comme Michée annonçait du Messie, qui a vécu avant l'an 70, qui a été rejeté du peuple et qui est mort pour les péchés des gens. Et certains d'entre eux disaient, non, j'ai aucune idée, je ne sais pas. Puis il y en a un ou deux qui disent, ouais, je sais où est-ce que tu t'en vas avec ça. Mais c'est intéressant, il y en avait un ou deux d'entre eux aussi qui disaient, ouais, c'est vraiment intéressant. Jésus, il a effectivement été rejeté, puis il y a comme un blocage mental chez les Juifs quand on vient d'en parler de Jésus. Il y en a un qui disait, c'est exactement comme ça dit dans le passage, dans le verset ici. Ils l'ont rejeté, on le considère comme rejeté, comme maudit par Dieu. Donc, je ne sais pas si une de ces personnes-là qui s'est tournée vers le Seigneur qui a cru que Jésus était bel et bien ce Messie annoncé par Ésaïe et Michée et les prophètes et l'accomplissement du système des sacrifices dans l'Ancien Testament. Mais c'est intéressant de voir dans le regard de ces gens juifs-là aujourd'hui comment, effectivement, à partir de l'Ancien Testament, on peut leur montrer que on est pécheurs, on l'est tous, puis que celui que Dieu a envoyé pour nous aider à éviter le jugement de Dieu pour atteindre sa justice, c'est Jésus-Christ. C'est lui le Messie. Donc, Paul fait cela à Thessalonique, à Bérée. Il y a des Juifs qui croient, des non-Juifs aussi qui croient, mais il y en a qui ne croient pas. Et ceux qui font le plus de troubles, ce sont des Juifs qui ne croient pas, qui sont jaloux, qui font comme on a vu déjà plusieurs fois. Là, ça n'a pas vraiment de classe. Ils vont chercher des vauriens, des gens qui traînent à droite et à gauche, je ne sais pas s'ils leur donnent des sommes d'argent pour faire du trouble, pour faire des émeutes. Ils essayent de faire à Paul et Silas ce qui s'est passé à la ville d'avant. Les faire battre, les faire emprisonner, mais ils ne les trouvent pas. Donc, ils traînent une autre personne qui les avait hébergés chez eux, Jason. Et à Thessalonique, donc, après ça, les gens disent à Paul et Silas, OK, continuez, continuez. C'est correct. Mais dans ces quelques jours, dans ces quelques semaines, il y a une église qui a été bâtie. Et Paul a écrit deux lettres aux habitants de cette ville-là. Est-ce que vous savez si elles sont dans la Bible? Thessalonique? Thessalonicien, voilà. Donc, deux des lettres de Paul du Nouveau Testament sont des lettres qu'il a écrites aux frères et sœurs de l'église de Thessalonique. Donc, un Thessalonicien, deux Thessaloniciens. Si ça vous intéresse, Paul y parle justement dans le chapitre 2 de 1 Thessalonicien, comment il est arrivé, ce qui s'était passé à Philippe, puis comment les gens les ont reçus. Alors, c'est intéressant. Et là, ensuite, Paul et Silas continuent à Bérée. Et là, l'auteur du livre des Actes des Apôtres, Luc, celui qui a écrit aussi l'évangile de Luc, mentionne que les Juifs de Thessalonique accueillirent la parole avec beaucoup d'empressement. Au verset 11. Je commence au début du verset 11, suivez avec moi. Ces derniers avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils accueillirent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Donc, Luc mentionne que la noblesse de notre écoute de la parole réside dans l'empressement avec lequel on examine les textes de la Bible pour voir si ce qu'on leur dit est exact. C'est important pour moi, pour vous, de ne pas prendre pour acquis ce qui est enseigné d'ici, ce que vous entendez à la radio chrétienne, ce que vous lisez dans des livres chrétiens, ce qu'on enseigne à notre Église. Pas prendre tout cru sans étudier, s'assurer que ce qui est enseigné soit fidèle aux Écritures. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui sont enseignées en mettant quelques versets bibliques à droite et à gauche et que c'est beaucoup plus de la psychologie populaire assaisonnée à la sauce chrétienne. Alors, il faut s'assurer, vous et moi, que, et même la même chose de la philosophie du monde, que notre source de vérité, que notre barème d'évaluation de la vérité, ce soit ce qui est certain, ce que Dieu nous a donné, ce soit sa parole. J'avais un ami qui comparait cette semaine le fait de venir à l'église le dimanche, de lire ensemble la parole de Dieu, d'en entendre parler, c'est comme aller manger au restaurant. Quand on va manger au restaurant, on s'attend à ce que la nourriture soit bonne. On l'espère, on va payer pour. Et on espère qu'on va bien manger, on veut que ça soit relax, on va avoir une belle expérience culinaire, une belle expérience avec les gens avec qui on va manger ou simplement on veut manger un bon repas. Mais si on va juste manger le dimanche matin, on va se retrouver en carence alimentaire. C'est dur de jeûner une semaine jusqu'au prochain dimanche. Mais souvent, c'est dans une société occupée, dans une société où il y a tellement de distractions, de choses qui compétitionnent pour notre attention, c'est facile pour nous de juste manger un repas par semaine, de juste venir à l'église le dimanche, les fois qu'on vient, puis là, recevoir une nourriture spirituelle. Mais on a besoin de manger à tous les jours. On a besoin de cuisiner de la nourriture à la maison aussi. Pas juste aller au restaurant, on a besoin d'apprendre à se faire à manger, nous aussi, pour être capable de se nourrir. Alors, les Béréens, les habitants de Béré, sont un grand modèle pour nous. Apprenons, nous aussi, à nous nourrir à la maison, à vérifier ce qui nous enseigne, si c'est exact, si c'est fidèle à la Bible. Voilà. Alors, on laisse maintenant Thessalonique et Béré derrière, et on suit Paul, qui se rend en bateau jusqu'à la ville d'Athènes. Je vais lire Acte 17, la section dans Athènes, les versets 15 jusqu'à la fin du chapitre, verset 34. Ceux qui accompagnaient Paul le conduisirent jusqu'à Athènes, puis ils repartirent, chargé de transmettre à Silas et à Timothée l'ordre de le rejoindre au plus tôt. Pendant que Paul les attendait à Athènes, son esprit était profondément indigné à la vue de cette ville pleine d'idoles. Il s'entretenait donc dans la synagogue avec les Juifs et les non-Juifs qui craignaient Dieu, et chaque jour sur la place publique avec ceux qu'il rencontrait. Quelques philosophes épicuriens et stoïciens se mirent à parler avec lui. Les uns disaient: que veut dire ce discoureur? D'autres, parce qu'il annonçait Jésus et la résurrection, disaient: il semble qu'il annonce des divinités étrangères. Alors, ils l'attrapèrent et le conduisirent à l'aréopage en disant: pourrions-nous savoir quel est ce nouvel enseignement que tu apportes? En effet, tu nous fais entendre des choses étranges. Nous voudrions donc savoir ce que cela veut dire. Or, tous les Athéniens et les étrangers qui résidaient là ne passaient leur temps qu'à dire ou à écouter les dernières nouveautés. Paul, debout au milieu de l'aréopage, dit: Athéniens, je vous trouve à tout point de vue extrêmement religieux. En effet, en parcourant votre ville et en examinant les objets de votre culte, j'ai même découvert un autel avec cette inscription: à un Dieu inconnu. Celui que vous révérez sans le connaître, c'est celui que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve est le Seigneur du ciel et de la terre. Il n'habite pas dans des temples faits par les mains de l'homme. Il n'est pas servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, le souffle et toute chose. Il a fait en sorte que les peuples, issus d'un seul homme, habitent sur toute la surface de la terre, et il a déterminé la durée des temps et les limites de leur lieu d'habitation. Il a voulu qu'ils cherchent le Seigneur et qu'ils s'efforcent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. En effet, c'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être. Comme l'ont aussi dit quelques-uns de vos prophètes, de vos poètes, nous sommes aussi de sa race. Ainsi donc, puisque nous sommes de la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité ressemble à de l'or, à de l'argent ou de la pierre, sculptée par l'art et l'imagination de l'être humain. Sans tenir compte des temps d'ignorance, Dieu annonce maintenant à tous les êtres humains, partout où ils se trouvent, qu'ils doivent se repentir, qu'ils doivent changer d'attitude, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde avec justice par l'homme qu'il a désigné. Il en a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant. Lorsqu'ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns se moquèrent et les autres dirent « Nous t'entendrons là-dessus une autre fois. » Ainsi, Paul se retira du milieu d'eux. Quelques-uns, cependant, se joignirent à lui et crurent. Parmi eux figuraient Denis, l'Aréopagite, une femme du nom de Damaris, et d'autres avec eux. La ville d'Athènes. La ville d'Athènes avait été la ville la plus puissante du bassin méditerranéen quelques siècles plus tôt. Dans les années 400 avant Jésus-Christ, la ville d'Athènes contrôlait une immense armée, était particulièrement le berceau de littérature, de philosophie et de démocratie de tout le monde connu. Athènes était une ville extrêmement riche. Elle avait instauré le premier exemple de démocratie de l'histoire humaine. Une ville-cité dirigée par des officiers élus qui étaient redevables envers les citoyens. Les dramaturges, donc ceux qui écrivaient des pièces de théâtre grecques, étaient réputés. Les sculptures des Grecs, l'architecture des Grecs d'Athènes étaient réputées. Et même à la Renaissance en Europe, il y a eu un retour vers la Grèce antique, vers leur architecture, vers leur mode d'écriture, vers leur mode de sculpture. Athènes a eu une marque indélébile sur le monde occidental qui se fait encore ressentir aujourd'hui. Et au niveau de sa philosophie aussi, d'Athènes sont venus parmi les philosophes qui ont façonné le monde occidental comme presque nul autre. Socrate, Platon et Aristote sont probablement les trois philosophes dont, de base, si on fait un cours de philosophie occidentale, ce sont les trois dont on va entendre parler, des philosophes qui ont précédé de quelques siècles l'arrivée de Paul à Athènes. Donc Athènes avait perdu ce statut de ville d'élite, mais conservait quand même une importance, c'était un centre intellectuel très important. Je vous ai montré, j'aimerais vous montrer quelques images aussi à l'écran. Ça, c'est une représentation, un dessin de ce à quoi ressemblait Athènes à l'époque. Donc, au centre, on avait l'agora, qui était genre la place du marché où les gens vendaient toutes sortes de choses. Il y avait des discussions. En haut, sur la montagne à gauche, ça, c'est l'acropole. C'est là qu'il y avait la majorité des temples aux divinités qui étaient adorées par les gens d'Athènes, les Athéniens. Et à droite, sur une colline un peu moins élevée ici, on a, là c'est écrit en anglais, l'Aréopage, si on le divise, là, Arès, le dieu Mars, le dieu de la guerre, et Page, qui veut dire la colline. Donc c'était la colline de Mars, c'est là que les gens se rencontraient pour discuter des affaires politiques, des affaires philosophiques de l'époque. Et on peut aller à la prochaine diapo aussi. Ça, c'est une reconstruction 3D de ce à quoi avait l'air l'acropole à l'époque. Donc, il y avait plusieurs temples. La déesse culte de la ville d'Athènes était la déesse Athéna, qui était vue comme... Je pense que c'était Athéna, la déesse de la guerre aussi. Elle était victorieuse. La statue à l'intérieur du temple était de 10 mètres de haut. Ça, c'est un tremplin de 10 mètres, si vous avez déjà sauter en bas d'un tremplin de 10 mètres. C'est très haut. Alors, c'est 3-4 étages de haut, cette statue tout en or, ou presque tout en or, de la déesse Athéna. Et il y avait un temple de Zeus aussi, ailleurs dans la ville, pas sur l'acropole, avec aussi une statue du dieu Zeus qui était 10 mètres de haut. On a aujourd'hui une vision de ce à quoi... Voici l'acropole aujourd'hui, donc il en reste encore des ruines. Et le temple, le fameux temple d'Athéna, le Parthénon, tient encore debout en partie et est un haut lieu touristique en Grèce et à Athènes. Ça, c'est la vue de l'acropole à partir de l'Aréopage, donc où Paul a discuté avec les philosophes de l'époque. Donc, on voyait très bien l'acropole d'où il était. Puis à la prochaine diapo, on voit encore aujourd'hui les marches que Paul a dû monter pour se rendre jusqu'en haut à l'Aréopage pour discuter avec les philosophes de l'époque. On peut laisser... On ne va pas tout de suite passer à la prochaine diapo, mais des anciens historiens disaient qu'on pouvait trouver 30 000 statues à Athènes. Et un d'entre eux disait que c'était plus facile de trouver une statue que de trouver un homme à Athènes. C'était une ville qui était remplie d'idoles, remplie de statues à la gloire de tel dieu, tel dieu, tel dieu, tel sous-dieu, tel demi-dieu, et il y avait des statues partout. Et la première chose que Luc nous dit à propos de Paul, quand Paul arrive à Athènes, au verset 16, « Pendant que Paul les attendait à Athènes, son esprit était profondément indigné à la vue de cette ville pleine d'idoles. » Athènes était remplie de statues et d'idoles à tous ces dieux grecs. Et Paul, comme à son habitude, va à la synagogue, il va parler avec les Juifs et les non-Juifs craignant Dieu. Il leur annonce probablement la même façon qu'il a fait à Thessalonique, à Bérée et avant, à partir de l'Ancien Testament. Il montre comment Jésus est le Messie premier attendu. Mais ça dit qu'il discutait aussi, à la fin du verset 17, et chaque jour sur la place publique, il discutait avec ceux qu'il rencontrait. Et là, il rencontre des philosophes athéniens, des philosophes épicuriens, des philosophes stoïciens, des familles de philosophes que, dans un cours d'introduction à la philosophie, vous allez entendre un peu que les épicuriens sont des gens qui recherchaient le plus de plaisir et le moins de douleur. Donc, ils étaient hédonistes, ils s'adonnaient au plaisir, mais de façon modérée. Donc, c'est pas qu'ils se lançaient dans n'importe quoi qui était plaisant, mais toujours avec ce genre d'évaluation rationnelle. Si je me lance dans quelque chose qui va me donner du plaisir maintenant, mais beaucoup de souffrance plus tard, alors je vais l'éviter. Mais c'était des gens qui n'ont pas fait énormément de bien pour la société. Tandis que les stoïciens, eux, voyaient le monde comme dirigé par le destin, qu'on ne pouvait pas changer grand-chose, il y a des tragédies qui vont nous arriver. Et ce qu'on contrôle, par contre, c'est notre réaction à ce qui nous arrive. Et les stoïciens cherchaient à être, comme le mot le dit, stoïques face aux grandes joies ou face aux grandes épreuves. Et se disaient, il va arriver des choses tragiques, on lève le menton, on sort le torse, puis on toffe les choses qui vont arriver, c'est normal, ça fait partie de la vie. Et ils étaient prêts à endurer certaines douleurs pour le bien commun, et les stoïciens ont fait du bien dans la société athénienne. Mais Paul discute donc avec eux, et eux sont fascinés par ce que Paul dit. On n'a jamais entendu parler de ce que tu nous annonces. Certains trouvent que c'est ridicule, d'autres l'attrapent et disent « Regarde, viens nous faire un exposé. » De toute façon, Luc raconte au verset 21, c'est un petit peu une critique de ce qui peut avoir lieu aujourd'hui, « Tous les Athéniens et les étrangers qui résidaient là ne passaient leur temps qu'à dire ou à écouter les dernières nouveautés. » Alors, on ne discute que des dernières nouvelles et eux aimaient beaucoup discuter de toutes les dernières nouveautés. Ah, un gars avec un nouveau message, parfait, viens nous raconter ça, viens nous expliquer ta philosophie ou ton Dieu étranger que tu nous annonces. Et donc, Paul, au milieu de l'Aréopage, s'adresse aux Athéniens et ne commence pas en leur disant comment il était absolument indigné devant leurs idoles. Mais il leur dit, je vous trouve à tout point de vue extrêmement religieux. Il dit, en effet, en parcourant votre ville et en examinant les objets de votre culte, J'ai même découvert un autel avec cette inscription « À un Dieu inconnu ». Alors, les Athéniens voulaient vraiment s'assurer d'offusquer aucun dieu. Alors, ils en avaient fait des statues, hein, pour les petits, pour les grands, les vertes et les pommures, des statues pour tous les dieux. Puis au cas où, pour s'assurer de ne pas en oublier un, au cas où il y en a un qu'on ne connaisse pas, ils avaient fait un autel à un dieu inconnu. Donc, le dieu qu'on ne connaîtrait pas encore, on le révère, on l'adore aussi. Comme ça, il ne va pas trop nous envoyer de troubles parce qu'on ne le connaîtrait pas puis on ne l'adorerait pas. Alors, Paul, au lieu de les critiquer puis sortir la masse puis écraser la philosophie et l'idolâtrie des gens de cette ville, il se sert de cette statue-là pour dire « Ce Dieu, au verset 23, « celui que vous révérez sans le connaître, c'est celui que je vous annonce. » Il se sert d'une porte, il trouve un pont, quelque chose qui peut connecter, quelque chose où il peut amener l'Évangile sans arriver avec la grosse mitraillette puis rentrer dans le tas au niveau verbal pour décimer complètement. Il dit non, je trouve quelque chose de positif puis je veux apporter l'Évangile à partir de ça. Et là, il leur parle de ce Dieu qui leur annonce. Et ce Dieu inconnu, il dit quelques différentes choses à propos de lui. Tout d'abord, il dit qu'il est le Créateur. Au verset 24, il dit « Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve est le Seigneur du ciel et de la terre, et il n'habite pas dans des temples faits par la main de l'homme. » Les dieux grecs ne croyaient pas que c'était Athéna et Zeus qui avaient créé le monde. Ils croyaient que c'était d'autres dieux qui les avaient précédés, des titans ou d'autres divinités. Donc, ils adoraient des dieux qui n'étaient pas nécessairement des dieux créateurs. Mais Paul leur dit « Celui que je vous annonce, c'est le Créateur. » Aujourd'hui, l'idée d'un Dieu créateur peut sembler dépassée. Avec la science, on a éliminé le besoin d'avoir un Dieu créateur. Cependant, beaucoup de gens y croient quand même. Beaucoup plus de gens, en tout cas si on regarde ce qui nous sort dans les médias en général, on pourrait croire que l'idée d'un Dieu créateur est complètement ridicule, mais en fait, il y avait un sondage qui est sorti il y a 2 ans, puis que les médias n'arrivaient pas à comprendre comment plus que la moitié des gens croyaient qu'il y avait un Dieu créateur, je ne me souviens pas du pourcentage, au Québec. En fait, l'idée d'un Dieu créateur, au niveau philosophique et je dirais même au niveau scientifique, il y a beaucoup plus de raisons de croire en un Dieu créateur, en un dessein intelligent, que dans l'apparition d'un monde hors du hasard. Il existe une complexité irréductible dans la vie, dans les cellules. Il y a des mécanismes au niveau de la cellule qui doivent être complets, extrêmement complexes au niveau des mitochondries pour être capable de juste brûler de l'énergie, qui doivent exister complètement pour que la cellule vive. Alors, il n'y a pas de place pour une lente progression, pour une lente évolution. Il faut que un système extrêmement complexe puisse apparaître de base. Il y a plusieurs raisons. Il y a le fait qu'on dit qu'il n'y a rien qui apparaît pour aucune raison. Il y a toujours une cause à quelque chose. Mais le monde, on dirait que ah, ça, c'est la seule chose sans cause, l'existence du monde. Il y a un saut philosophique à faire. La science ne peut pas expliquer qu'est-ce qui fait qu'il y a quelque chose plutôt que rien. On arrive dans la philosophie. Mais bon, c'est pas du tout déraisonnable au niveau philosophique, au niveau scientifique, de croire qu'il existe un dessein intelligent qui a créé le monde. Ensuite, Paul explique aux Athéniens, aux philosophes à l'Aréopage que les êtres humains, nous sommes dépendants de ce Dieu-là et pas l'inverse. Il dit que le Dieu créateur n'habite pas dans des temples, qui n'est pas servi par des hommes. Au contraire, c'est lui qui nous donne tout, la vie, le souffle et toutes choses. C'est lui qui nous a placés sur la terre, c'est lui qui a déterminé nos temps et lieux d'habitation. Au verset 28, il répète, c'est lui qui nous donne vie, mouvement et être. Puis en plus, là, il cite des poètes grecs à l'appui en disant « Nous sommes aussi de sa race ». Donc, il dit, comme on est de la race de Dieu, on est, dans des termes bibliques, on pourrait dire, on a été créé à l'image de Dieu. Alors, il dit, les dieux ne peuvent pas ressembler à de l'or, de l'argent ou de la pierre, sculptés par l'art et l'imagination de l'être humain. Nous aussi, aujourd'hui, on a tendance à se créer des dieux, des idoles à notre image. Non seulement sont-ils faux, mais ils ne satisferont jamais. Paul continue en disant que ce Dieu créateur veut que nous le cherchions. Au verset 27, il dit, Dieu a voulu que les peuples cherchent le Seigneur et qu'ils s'efforcent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Dieu, il est proche. Il est proche de chacun de nous. Il veut que nous le cherchions. Et il s'est manifesté dans celui qui est ressuscité. Il mentionne au verset 30, « Sans tenir compte des temps d'ignorance, Dieu annonce maintenant à tous les êtres humains, partout où ils se trouvent, qu'ils doivent se repentir, c'est-à-dire qu'ils doivent changer d'attitude, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde avec justice par l'homme qu'il a désigné. Et il en a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant d'entre les morts. » Peut-être que Paul n'a pas eu le temps de finir son discours, parce que ça dit, dès qu'il a mentionné la résurrection, là, il y en a plusieurs qui se sont mis à se moquer de lui. Peut-être qu'il n'a pas été capable de continuer son discours à ce moment-là. Peut-être qu'il espérait parler de la croix, l'élément central de la croix et la résurrection de Jésus, les deux éléments centraux de la foi chrétienne. Mais les gens se mettent à se moquer de lui et disent, bon, on t'entendra parler une autre fois. Parce que pour les Grecs de l'époque, la résurrection était profondément non désirable. Ils croyaient que la chair était ce qui est corporel, était bas, était méprisable, était ça se corrompt, lorsqu'on meurt, qu'on enterre, notre corps se dégrade, on pourrit, tout ce qui est physique est voué à la destruction. Tandis que l'esprit, l'âme, ça c'est Platon qui avait instauré cette dualité entre le corps et l'esprit, tandis que l'âme, lui, est élevée. On veut l'apporter vers le spirituel. L'âme est possiblement éternelle et c'est ça qu'on veut garder. Une fois qu'on est mort, on ne veut certainement pas revenir dans un corps. Alors pour les Grecs, ce n'était pas du tout désirable l'idée de la résurrection. Cependant, le Dieu que nous adorons, les chrétiens, est un Dieu sur lequel le péché n'aura rien gagné pour lui-même. Le péché n'amènera aucun butin. Dieu a triomphé même du péché en ce qu'il va ressusciter nos corps mortels pour nous donner des corps glorieux, incorruptibles, comme Dieu nous promet, comme Dieu nous annonce dans le Nouveau Testament. Alors, qu'est-ce qu'on peut apprendre de ça? Qu'est-ce qu'on peut apprendre de comment Paul s'adresse différemment aux Juifs qu'aux philosophes grecs? En fait, on peut apprendre que Paul ajuste son message à son auditoire. C'est pour ça que j'ai intitulé le message de ce matin « Un sage modèle de discussion ». On pourrait dire « des sages modèles de discussion ». Avec les Juifs dans la synagogue, il se sert de l'Ancien Testament pour montrer que Jésus est le Messie. Avec des philosophes grecs, il se sert d'un pont qu'il réussit à trouver pour leur parler. Il passe pas de temps à parler des prophéties de l'Ancien Testament puis à parler de l'avenue du Messie. Non, il parle du Dieu créateur. Il parle du Dieu qui nous a créés pour que nous le recherchions. Et du Dieu suprême qui s'est manifesté par celui qui vient juger le monde, mais celui qui est ressuscité des morts, Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce qu'on peut apprendre de ça? Bien, tout d'abord, il y a le fait que Paul ne change pas l'Évangile. Jésus demeure le seul chemin. Que Paul parle aux Juifs, que Paul parle aux Grecs. Nous ne pouvons gagner la faveur de Dieu ailleurs qu'en Jésus. Jésus est, demeure et sera toujours le seul moyen d'accès vers Dieu, le seul moyen d'être réconcilié avec Dieu, de pouvoir être pardonné de nos péchés. Mais ce qu'on apprend aussi de Paul, c'est qu'on voit qu'il on peut apprendre à parler le langage des gens qui nous entourent, apprendre à connaître leur culture, apprendre à connaître leur histoire, connaître ce qui les intéresse. Paul se promenait dans Athènes, peut-être qu'il cherchait justement un pont en se disant « Aïe, 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 cette ville remplie d'idoles-là, comment est-ce que je peux leur présenter l'Évangile? » Et en trouvant cet autel à un Dieu inconnu, il se dit « Ah, là j'ai un pont, là peut-être que j'ai une façon que je peux leur présenter l'Évangile. » Et d'ailleurs, on peut passer à la prochaine diapo, on a trouvé, je ne sais pas si c'est à Athènes, mais il y a, dans un musée de Rome, il y a cet autel, un autel grec qui a été fait à un dieu inconnu. Donc en grec, agnostos theos, un dieu inconnu. Et que ce soit celle-là que Paul ait vue, ou une autre comme celle-là, on a une preuve archéologique, effectivement, qu'il y avait des autels à un dieu inconnu de la part des Grecs. Mais Paul cherche et a trouvé un pont vers l'Évangile. Dans notre type d'historique en tant que mouvement d'Église, puis moi, lorsque j'ai grandi, on disait toujours qu'il faut présenter la bonne nouvelle en commençant par la mauvaise nouvelle, le fait qu'on est pécheur. Et souvent, ça fait que, comme chrétien, on est plus rapide à condamner le péché, à condamner les idoles, plutôt qu'à apprécier les signes de la bonté de Dieu et les ponts qu'on peut créer vers l'Évangile. Un théologien que j'apprécie, Tim Keller, parle de cette façon envers les différentes cultures humaines. Et je le cite, ça vient de son livre Center Church. C'est une traduction libre que j'ai faite. Il dit « Chaque culture humaine est un mélange extrêmement complexe de vérités exceptionnelles, de demi-vérités un peu gâchées et de résistance manifeste à la vérité. Chaque culture a en son sein un discours idolâtre, quelque chose de négatif. Néanmoins, chaque culture a aussi en elle un certain témoignage à la vérité de Dieu. Il y a quelque chose de positif. Nous devrions reconnaître et célébrer les expressions de justice, de sagesse, de vérité et de beauté dans chaque culture. Mais nous approchons chaque culture en étant conscients qu'elle a été déformée par le péché, et en particulier le péché de l'idolâtrie. » Il mentionne comment Paul, auprès des Juifs, leur montre comment Jésus est la justice de Dieu qu'on ne peut pas atteindre par la loi. Les Juifs cherchaient la justice devant Dieu et Paul leur annonce Jésus qui est la vraie justice, la seule façon qu'on peut être justifié devant Dieu. Et aux Grecs, il présente Jésus comme la vraie sagesse, la source, la sagesse, la connaissance. En parlant du péché, oui, en parlant de ces éléments-là. Mais je pense que ça vaut la peine pour nous de ne pas oublier que si on cherche à corriger quelqu'un sans souligner les qualités ou les points forts, la personne ne nous écoutera pas, à moins d'être exceptionnellement humble. Lorsque quelqu'un a un reproche à vous faire, une critique à vous faire, c'est toujours très difficile à recevoir. Mais si la personne souligne quelque chose de positif dans votre tempérament, dans votre travail, puis vient mentionner ce qui serait amélioré ou « Ah, il y a eu une faille, il y avait un angle mort ici, ça serait à retravailler. » C'est difficile de recevoir juste la critique, puis ça ne donne pas vraiment le goût d'écouter la personne quand tout ce qu'elle vient faire, c'est nous critiquer. Alors, dans notre message, dans notre témoignage, sachons reconnaître les aspects positifs, les vérités, les désirs fondamentaux qui sont justes, qui sont beaux, qui sont bons. Dans peu importe le point de vue, peu importe la vision du monde que nos amis, que nos collègues, que nos interlocuteurs présentent. Et vous savez, la Bible nous montre différentes raisons pour répondre à l'Évangile. Parfois, on a tendance à faire une présentation de l'Évangile, qu'on présente le message du salut, de la mort de Jésus, de cette façon-ci, les choses dans cet ordre-là, avec ces versets-ci, appris par cœur. Et malheureusement, ça fait qu'on est bien ajusté pour un type de culture ou un type de personne, un type de vision du monde, mais on est mal ajusté pour les autres. Tandis que la Bible est plus large que ça. La Bible nous donne une multitude de raisons différentes pour croire en Jésus. Et Keller, dans son livre, en mentionne 6. J'aurais aimé ça pouvoir vous donner des versets pour chacun d'entre eux, mais je vais simplement les passer. La Bible nous appelle à venir à Dieu, parfois par crainte de la mort et du jugement. Si vous avez peur de la mort, ou si les gens à qui on parle ont peur de la mort, ont peur du jugement de Dieu, se sentent coupables, eh bien, il y a en Jésus une façon d'échapper à la mort éternelle. Il y a en Jésus la seule façon d'échapper au jugement de Dieu pour les péchés qu'on sait qu'on a commis. Deuxièmement, un appel à venir à Dieu pour être relâché du fardeau de la honte et de la culpabilité. Certains d'entre nous, certains des gens qui nous entourent, portent un lourd fardeau de honte, de culpabilité pour des choses qu'ils ont commises, pour des choses qu'ils ne sont pas capables d'arrêter de faire, pour certaines choses, en tout cas, peu importe. Mais l'Évangile nous libère. L'Évangile nous enseigne qu'en Jésus, le sang de Jésus qui a été versé pour nous a été versé pour le pardon de nos péchés, pour tous ceux qui placent leur foi en lui, comme on vient de le célébrer par le repas du Seigneur. Dans 1 Jean 1,9, l'apôtre Jean nous dit, « Si nous reconnaissons nos péchés, c'est-à-dire Dieu, Jésus, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité, de tout mal. » Si tu vis avec de la honte, de la culpabilité, ou s'il y a des gens que vous connaissez qui vivent ce fardeau-là, ben Jésus t'invite à lui. Et il y a auprès de lui un relâchement, un pardon plein et complet pour tous ceux qui se donnent à lui. Troisièmement, un appel à venir de Dieu à cause de l'attrait de la vérité. La Bible se présente comme la vérité. Jésus se présente lui-même comme la vérité incarnée. La vérité ne se trouve plus dans une série de propositions, une série de faits, mais la vérité s'est trouvée ultimement en une personne. Jésus qui a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Vous avez des amis où tu cherches la vérité? Viens à Jésus. Il est le summum de la vérité. Il est la vérité. Quatrièmement, la Bible nous appelle à venir à Dieu pour obtenir de l'aide pour un problème. Psaume 46, 2 dit « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours toujours présent dans la détresse. » Si tu vis une détresse, si tu vis quelqu'un qui vit une tempête dans sa vie, bien Dieu nous appelle à venir à lui. Il nous promet de nous accompagner à travers nos difficultés, de nous accorder sa paix et d'ouvrir nos yeux par rapport à notre propre responsabilité, comment nos propres péchés ont contribué à notre difficulté. Alors, cinquièmement, un appel à venir à Dieu à cause du besoin d'être aimé. Aujourd'hui, en tout cas, chacun d'entre nous, on sait qu'on a besoin d'être aimé. On cherche l'amour, l'approbation à droite, à gauche. Romains, est-ce que c'est bien? Non, c'est Romains 5, 5 à 8. Nous dit, « Or, cette espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. En effet, alors que nous étions encore sans force, Christ est mort pour des pécheurs au moment fixé. À peine mourrait-on pour un juste, peut-être accepterait-on de mourir pour quelqu'un de bien. Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Nous avons besoin d'être aimés. Nous connaissons des gens qui cherchent l'amour à droite, à gauche, à mauvaise place. Venons à Jésus. Viens à Jésus. Il t'appelle. Lui seul peut te combler de l'amour que tu recherches. Un amour qui t'aime malgré tous tes péchés, malgré toute la noirceur dans ton cœur. Finalement, sixièmement, Dieu nous appelle à venir à lui pour satisfaire n'importe quel désir existentiel inassouvi. Est-ce que tu as soif de paix? Connais-tu quelqu'un qui a soif d'espoir, de repos, de vie éternelle, de justice, d'une raison d'être, soif d'être transformé du mal qui nous habite? Comme Paul a dit aux gens d'Athènes, celui que vous vénérez sans le connaître, c'est celui que je vous annonce. Celui que tu cherches sans le connaître, c'est Jésus que nous vous annonçons. En conclusion, il va y avoir des réponses différentes à ce message. Paul, après avoir présenté une défense de sa foi, avoir présenté l'Évangile, il y a trois réponses différentes. Tout d'abord, il y a des gens qui se moquent de lui. Deuxièmement, il y a des gens qui soit sont indifférents ou le remettent à plus tard. On t'entendra une autre fois au verset 32. Et dernièrement, il y a quelques personnes qui croient. Il y a quelques personnes qui viennent à Jésus et qui croient. J'aimerais nous suggérer, frères et sœurs, qu'il faut qu'on soit prêt à subir la moquerie pour que certains viennent à croire. Les mêmes réponses, on va les trouver autour de nous. Des gens qui vont se moquer de nous, des gens qui vont être indifférents ou qui vont remettre ça plus tard. Et il y a des gens qui vont croire. Mais je pense que pour se rendre aux gens qui vont croire, il faut être prêt à faire face à ceux qui vont se moquer de nous. Alors, frères et sœurs, chers amis, redoublons de courage. Avec les moqueries, viendront à leur temps aussi une moisson des gens qui vont venir au Seigneur. Laissez-moi terminer par la prière. Seigneur, nous voulons, comme Paul, être indignés de ce que notre monde se tourne vers toutes sortes d'autres idoles plutôt que de se tourner vers toi. Seigneur, ça nous attriste. Seigneur, ça nous attriste que ta gloire est bafouée, que ton honneur n'est pas reconnu. Seigneur, on veut te demander de nous rendre de plus en plus sages, Seigneur, de nous rendre de plus en plus compréhensifs. Aide-nous à apprendre à connaître les gens auprès de qui tu nous appelles, Seigneur. À écouter avant de parler. À prier avant de parler. Mais à oser parler, à oser faire face à la moquerie. Seigneur, redouble, renforce notre courage. Aide-nous à être prêts à subir la moquerie pour que d'autres puissent croire. Et Seigneur, sauve les moqueurs aussi. Certains d'entre nous étions de ce nombre. Et tu en as déjà sauvé, tu vas continuer à le faire, Seigneur. Aide-nous à redoubler de courage. Aide-nous à t'aimer de tout cœur, Seigneur, à marcher dans tes voies. Accompagne chacun d'entre nous, Seigneur, cette semaine. Dans le précieux nom de Jésus, nous prions. Amen.